Chapitre 8. Les brodequins malheureux. Camilla, quoiqu'elle eût trouvé dans les malheurs et la résignation de sa sœur un adoucissement à ses propres peines, avait cependant si peu de disposition au plaisir qu'elle n'avait accepté l'invitation de Mistress Asbury que parce qu'elle n'avait pu se refuser à ses instances. M. Tyrold avait été bien aise qu'elle profitât d'une occasion de s'amuser, mais il avait demandé que Lavinia fût de la partie, non seulement pour qu'elle participât au plaisir, mais aussi parce qu'il comptait plus sur sa prudence que sur celle de sa sœur, naturellement étourdie. Il n'y a point de salle de spectacle à Norwick, et la chambre disposée pour la représentation du jour ne pouvait contenir que deux loges, dont une avait été retenue pour Mistress Arbery. Le major, attentif, se trouva prêt à l'arrivée de Camilla pour lui donner la main. Les autres officiers étaient dans la loge. On donnait Othello. La pièce était si mal jouée qu'après la première scène, Lavinia voulait se retirer. Mais la gaieté naturelle de Camilla se ranima par le ridicule des personnages. Elle fut secondée par Sir Sudley Clarendel, dont les observations et les facéties rendaient la scène encore plus risible. Camilla le regardait comme l'homme le plus singulier qu'elle eût jamais vu. Mais comme il lui était absolument indifférent, sa bizarrerie l'amusait et ne lui déplaisait pas. Les acteurs étaient de la plus pauvre espèce de comédiens de campagne, et telle était leur médiocrité qu'ils n'avaient eu nulle part assez de succès pour rester une semaine dans le même endroit. Ils n'avaient pour toutes leurs pièces qu'une seule décoration qui représentait un camp et qui, dans Othello, faisait l'office d'une rue, d'un sénat, d'une ville, d'une chambre à coucher et d'un château. Les costumes étaient presque aussi mesquins, chacun étant obligé de prendre celui qui lui convenait dans une garde-robe qui, pour toutes les pièces qu'ils avaient à jouer, ne contenait pas deux vêtements par personne. En conséquence, Othello était vêtu comme le roi Richard III, excepté qu'au lieu d'un diadème, il avait une perruque noire. Il avait noirci son visage avec un bouchon brûlé. Iago portait un costume qui, dans l'origine, avait été fait pour le Lord Soppington. Brabantio avait emprunté l'armure du spectre d'Hamlet. Cassio, lieutenant général de l'armée chrétienne, n'avait pu trouver qu'un habit turc d'Osman, et Roderigo portait les habits du juif Shylock. Desdemone, vêtu d'une manière plus analogue à sa destinée qu'à sa situation, joua tout son rôle, excepté la dernière scène, avec les habits de deuil d'Isabelle. Amélie fut obligée de s'arranger de l'habit de la première sorcière de Macbeth. Les acteurs de l'un et l'autre sexe gesticulaient de manière qu'ils avaient l'air de vouloir effrayer les spectateurs plutôt que d'exprimer leurs sentiments. Les hommes s'approchaient si près l'un de l'autre, se menaçant du bras ou des deux poings, que Sir Sudley prétendit qu'ils avaient l'air de gens qui se défient à boxer. Les femmes, qui ne leur cédaient en rien, jouaient avec tant d'action qu'elles déchiraient les manches de leurs robes, ce qui, malgré toutes les épingles qu'on prenait soin d'y mettre à chaque entracte, laissait souvent leurs épaules à découvert. Elles levaient d'ailleurs les mains si haut, en se mettant l'une vis-à-vis de l'autre, que Sir Sudley soutint souvent qu'elles finiraient par s'arracher leurs bonnets. Il savait d'ailleurs si mal le rôle que le souffleur était le seul qui pût dire une phrase sans se tromper. Iago, c'était le maître de la troupe, était le seul qui n'eut pas d'accent provincial. Tous les autres, au premier mot qu'ils prononçaient, indiquaient le pays qui les avait vus naître. Mistress Asbury s'était d'abord amusée de la pièce autant que Camilla. Mais plus accoutumée à ce genre de spectacle, elle se fatigua bientôt de la monotonie des sottises, et vers la fin du quatrième acte, elle proposa de se retirer. Camilla, qui, depuis longtemps, ne s'était autant amusée, parut fâchée de quitter si vite la partie. Sa gaieté l'emportait sur l'ennui. Elle insistait pour rester lorsqu'un monsieur, qui, de la loge opposée, leur avait rendu visite, offrit de faire reconduire les deux jeunes personnes par sa mère, dame qui demeurait à Etherington, qui connaissait M. Tyrold et qui se proposait de rester non seulement à toute la pièce, mais même à la farce qui devait suivre. Lavinia y consentit. Le fils alla faire à sa mère la proposition et l'affaire fut bientôt arrangée. Mistress Asbury, qui voyait 3000 entre elle et le presbytère et qui, tout en aimant à rendre service, n'était pas dans l'habitude de se gêner, remit alors au général Kinsale les deux jeunes personnes, le pria de la conduire à la loge de la dame et prit la main du colonel Andover pour gagner sa voiture. Le général se chargea de la sœur aînée, Le major donna la main à Camilla. Mais un tumulte qu'occasionnait l'arrestation d'un voleur les empêcha de passer. Ils revinrent bien vite reprendre la loge qu'ils avaient quittée. Quoique ce mouvement eût troublé tous les spectateurs, il n'avait point interrompu la pièce. Desdemone étant précisément alors dans son lit, Camilla, pour ne pas perdre une scène si intéressante, invita sa sœur à rester jusqu'à la fin de la pièce, avant de se rendre à l'autre loge, dans laquelle, 2 minutes après, elle vit entrer Mandelbert. L'une et l'autre s'assirent le moins en vue qu'elles le pouvaient, et Camilla commença à regretter de n'avoir pas accompagné Mistress Alberi. Elle n'avait pensé qu'au spectacle. La vue de Mandelbert lui fit apercevoir l'inconvenance de sa situation, et cette idée ne lui en vint que parce qu'elle pensa qu'il en serait frappé. Mandelbert avait fait un dîner d'homme. Il était entré dans la salle pour voir ce qui s'y passait, sans y chercher personne de sa connaissance. Il reconnut sur le champ Lavinia et fut inquiet de savoir pourquoi Camilla n'était pas avec elle. Mais celle-ci se cachait avec tant de soin que Mandelbert, voyant seulement une femme dans la loge, présuma que c'était quelque dame d'Esserington et remit après la pièce à en savoir davantage. Le spectacle alors devint si ridicule que Camilla, malgré tout son embarras, ne put s'empêcher de rire presque continuellement. Desdemone, soit qu'elle fût enrhumée, soit qu'elle voulût donner à son sommeil apparent plus de vérité, faisait tant de bruit en respirant qu'elle fit rire tous les spectateurs. Sœur Sudley s'écria en se bouchant les oreilles « Ah, si Desdemone ronfle, je ne prends plus son parti quand elle devrait mettre sa robe en loque. Elle est nasale à faire trembler. » Othello entra, tenant à la main une chandelle et laissant à chaque pas tomber des gouttes de suif. Précisément lorsqu'il venait de déclarer qui ne voulait pas couper cette peau plus blanche que la neige, il aperçut à la chandelle un moucheron qui la faisait couler si vite sur sa main et la manche de son habit que le moment de l'éteindre n'étant pas encore arrivé, il fut forcé de poser son épée et, faute de mieux, de moucher la chandelle avec ses doigts. Sir Sudley s'écria qu'il ne pouvait plus y tenir. « Oh, ma foi, dit-il, j'y renoncerai si je ne comptais pas sur le plaisir de le voir faire taire les terribles narines de la chère Desdemone. » Mais l'instant d'après, lorsqu'Othello se penchait sur le lit pour dire « Lorsque j'ai cueilli la rose, je ne peux plus lui rendre la vie, il faut qu'elle sèche », le feu prit à sa perruque. La chandelle alors lui tomba des mains. Il essaya de sauver sa perruque, mais on l'avait attachée pour lui donner un air plus naturel. Et dans son effroi, ne pouvant la détacher, il se jeta sur le lit et roula la couverture sur sa tête. Desdemone, épouvantée, sauta subitement en bas du lit. « Ah, mon Dieu, je vais être brûlée !» Alors cette noble vénitienne montra, sous une vieille robe de chambre de satin blanc, destinée à couvrir ses bras et son sein, le vêtement que, dans un entracte, elle avait mis pour se trouver prête à faire le saut du tremplin, savoir, une robe sale de toile rouge et blanche, un vieux jusse-au-corps d'étoffe bleue piquée, des souliers et des bas noirs. Elle courait dans ce misérable état au travers du théâtre tout en criant, lorsqu'Othello, ayant éteint le feu et ne sachant pas que la moitié de ses boucles avait été la proie des flammes, courut promptement après elle, lui dit qu'elle était une sotte et la reconduisit au lit. Il l'aida de son mieux à s'y replacer, puis il alla dans la coulisse rallumer sa chandelle, revint gravement, et l'éteignant avec un grand soin, il reprit son rôle par ces mots « Sois ainsi quand tu seras morte », etc. Un grand éclat de rire s'éleva dans toute la salle lorsqu'il dit « Il faut que je pleure ». « Et moi aussi, mon bon ami, dit Sir Sedley, car jamais chagrin ne m'a fait autant pleurer. » Le moment de la suffocation était arrivé. Mais à l'instant que Desdemone demandait seulement une demi-heure, le portier de la comédie entra dans le parterre et dit à haute voix « Y a-t-il une demoiselle Tyrol dans la salle ?» Les deux sœurs, fort étonnées, se jetèrent en arrière, priant ces messieurs de les cacher. Et l'homme, ne recevant point de réponse, s'en alla. Tandis qu'elle cherchait à deviner ce que cela voulait dire, la pièce finit. Un des comédiens, père de Desdemone, vint alors à la porte du parterre et dit « On me prie de demander s'il y a dans la salle une demoiselle Tyrol et de l'inviter à sortir parce que son oncle se meurt. » Un cri perçant acheva de détourner du théâtre l'attention des spectateurs et de faire découvrir la retraite de Camilla. Elle ne pensa plus à se cacher. Elle aurait elle-même ouvert la porte de la loge pour se précipiter si le major ne l'eût prévenue, en s'emparant en même temps de sa main pour la conduire au travers de la foule.